Marie-Hélène vient juste d'avoir 20 ans. Ça fait 6 mois qu'est en appartement. Sur les murs blancs d'un petit 3e et un demi, est partie en voyage. Marie-Hélène a pourtant pas d'amant, juste des amis qui viennent de temps en temps fumer son pote, écouter sa musique. Marie-Hélène est une fille sympathique.
C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps.
En mobylette, en métro ou à pied, Marie-Hélène traverse la société. Née par hasard dans le mauvais pays, au mauvais temps, Marie-Hélène s'ennuie. S'ennuie de quoi? Elle sait pas trop bien. S'ennuie de qui? Elle sait encore moins. En attendant, il y a eu 2 mois d'ouvrage, 1 mois d'études, puis l'assurance chômage.
C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps, tout le temps.
Le temps d'user jusqu'au dernier sillon, son Genesis et sa 5e saison, et d'oublier les mots de Let It Be qui joue la nuit quand tout le monde est parti. Mais Let It Be, c'est déjà l'ancien temps. Marie-Hélène avait même pas 12 ans, et c'est si loin qu'elle le sait plus par cœur. Et c'est tout ça qui fait qu'elle a si peur.
C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps, tout le
partie de ceux qui se posaient la question « Let it be, c'est déjà l'ancien temps, mais à partir de quand était-ce déjà l'ancien temps? » Ben, du moins, à partir de 1976, c'était déjà l'ancien temps, car c'est la date à laquelle la pièce Marie-Hélène de Sylvain Lelièvre est apparue dans nos oreilles.
Alors, les actualités culturelles, la presse à New York, musique, critique, Alain Brunet, je vous lis les 2 premiers paragraphes et le tout dernier de cette critique. Un nouveau cycle de Parsifal, opéra wagnérien, mis en scène en toute singularité par François Girard, de surcroît dirigé par Yannick Nézet-Séguin, s'est amorcé triomphalement hier au Metropolitan Opera House de Manhattan. Scénographie d'avant-garde, éclairage et projection dernier cri, mouvement de scène assorti de chorégraphies rituelles, voilà autant d'éléments ayant magnifié le chant et le jeu des protagonistes du récit. Qui plus est, le tout était soutenu par une clarté orchestrale exceptionnelle, gracieuseté de l'orchestre du Met et de son maestro québécois. Et pour terminer, Alain Brunet écrit « Pour qui n'a pas encore assisté à cette production, il faut en rappeler la finesse et la vision. » En créant un contexte visuellement contemporain, d'une beauté plastique tout simplement exceptionnelle, en actualisant les thèmes explorés par Richard Wagner, François Girard n'a-t-il pas créé un nouveau standard? Posez la question, 3 petits points. La grand-mère de la musique trad s'éteint. Chanteuse, danseuse et chercheuse passionnée, Francine Brunel-Reeves est décédée samedi. Pionnière de la musique traditionnelle ayant chanté le Québec en France, artiste polyvalente au parcours atypique et chercheuse autodidacte et passionnée, la Montréalaise Francine Brunel-Reeves est décédée samedi, elle avait 85 ans, et c'est un article de Philippe Papineau dans Le Devoir d'aujourd'hui. Au fil de sa vie passée entre le Québec, les États-Unis et la France, Francine Brunel-Reeves a mis en lumière de multiples façons les traditions orales et leur importance. C'était, pour reprendre les écrits de l'ex-collègue Yves Bernard, la grand-mère de la musique trad. Née le 29 octobre 1933 dans une famille aisée, devenue mère de 4 enfants, elle a passé une bonne partie de sa vie avec le scientifique Hubert Reeves, qu'elle a suivi dans son travail à Ithaca, dans l'État de New York, puis à Paris, au milieu des années 60, où elle vivra par ailleurs mai 68. Francine Brunel-Reeves portera entre autres la parole québécoise. Elle chantait Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Claude Léveillé, ainsi que des artistes moins connus comme Marie Savard. « J'étais une chanteuse indépendantiste et socialement très engagée », précisait-elle en entrevue au Devoir en 2009. Radio Centre-Ville fait face à une menace de saisie. Un créancier fait appel à un huissier pour se faire payer. Une menace de saisie par huissier pèse sur la station communautaire multilingue de Radio Centre-Ville, mais le directeur de la radio, Wanex Lalanne-Zéphir, a bon espoir de pouvoir surmonter ce problème. Une rumeur de fermeture de la station a cependant couru dans les réseaux sociaux lundi. Tout est parti d'un communiqué envoyé par Marc Provencher, un ancien technicien de Radio Centre-Ville, dont la compagnie Groupe Consortium a eu recours aux petites créances pour se faire payer une somme de quelque 7 000 $ due par la station. Selon Martin Bourgie, directeur de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, l'existence même de la station n'est pas compromise. Les équipements de diffusion de la radio, dont l'antenne, ont de toute façon une valeur bien supérieure à 7 000 $, soutient-il. Or, Martin Provencher affirmait dans son communiqué que la fermeture de la station était à prévoir le 31 mars. Radio Centre-Ville 102,3 FM est une radio communautaire qui existe depuis plus de 35 ans dans la métropole. Paul Simons annonce une tournée d'adieu. Simon. Quelques jours seulement après qu'Elton John eut annoncé sa retraite de la scène dans 3 jours, un autre grand nom de la musique s'apprête à faire une tournée d'adieu, Paul Simon. Le musicien âgé de 76 ans s'est tourné vers les médias sociaux lundi pour annoncer que sa prochaine tournée sera sa dernière, citant les conséquences de la tournée sur sa vie personnelle et la mort récente de son ami et guitariste, Vincent Nguini, pour expliquer sa décision. Les billets pour sa tournée Homeward Bound de Farewell Tour, qui s'arrêtera au Centre Bell le 13 juin, seront mis en vente le 8 février. La tournée s'amorcera le 16 mai à Vancouver et l'amènera en Amérique du Nord et en Europe. Son dernier spectacle est prévu le 15 juillet à Londres avec James Taylor et Bonnie Raitt comme invités spéciaux. Un spectacle à Toronto est également prévu le 12 juin. Il a précisé qu'il pourrait remonter sur scène de façon occasionnelle après sa dernière tournée. Et je termine avec une critique de théâtre. Société d'accueil avec Dis Merci, la compagnie Joe, Jack et John fête ses 15 ans de fort belle manière. 15 ans déjà que Catherine bourgeois créé dans la plus grande autonomie des spectacles qui abordent de manière ludique, pour ne pas dire festive, de criants enjeux de société. Sous la bannière de sa compagnie Joe, Jack et John, la metteuse en scène a édifié un répertoire fort cohérent, une dizaine d'œuvres qui jettent des ponts entre les disciplines aussi certainement qu'entre les communautés. Sa nouvelle pièce « Dis merci » ne fait pas exception. Pour en faire le cœur de son théâtre, Bourgeois n'a pas attendu que la diversité et l'inclusion soient des concepts à la mode. Ainsi, sa plus récente création, comme les précédentes, met en scène des personnages joyeusement contrastés, un microcosme d'individus dont les différences sont matière à quelques conflits, bien entendu, mais également, ou plutôt surtout, à de fertiles échanges. Les protagonistes de « Dis merci » résident dans le même immeuble. Armés de ballons, de guirlandes et de gâteaux, le quatuor de voisins s'apprête à accueillir chaleureusement une famille de réfugiés syriens. Vivant avec une déficience intellectuelle, Marc, interprété par Marc Barakat, est d'origine égyptienne. Anglophone, Emmanuel Kate, Emma Kate Guimont, habite à Montréal depuis 12 ans. Venu du Congo, Ali Ntumba, a fui un conflit qui dure depuis une vingtaine d'années. Quant à Danny Boudreau, il se définit comme caucasien. En une suite de tableaux parlés ou dansés, cocasse ou grinçant, concret ou métaphorique, léger ou cinglant, la représentation explore efficacement sans jamais faire de sermon les dédales du vivre ensemble. L'arrivée des réfugiés syriens, Catherine Bourgeois s'en sert comme d'un prétexte, comme d'un révélateur de nombreuses contradictions de la société québécoise actuelle. On réfléchit sur le sens de mots épineux comme étranger, identité ou culture. Une série de conseils aux nouveaux arrivants engendre des scènes à la fois désopilantes et critiques. Prends ta place, fonds-toi dans le décor, rentre dans le rang, obéis. On se dispute pour tout et pour rien. Pour un joli ballon, un confortable lazy boy électrique ou une alléchante part de gâteau, on s'engage dans des jeux de pouvoir aussi vains que cruels. Toutes les occasions sont bonnes pour rappeler à l'autre qu'on est plus fort, plus grand, plus digne, plus légitime. Même quand on donne, c'est pour mieux reprendre. Avec son rythme soutenu, son savant mélange de registres, singulière conjugaison de douce folie et d'observation sociale, sans oublier la considérable vigueur des quatre interprètes, le spectacle est l'un des plus réussis de la compagnie, sans nul doute le plus riche et équilibré d'un point de vue dramaturgique. Gageons que l'apport de Pénélope Bourque, auteure, et de Sarah Fauteux, conseillère à la dramaturgie, y est pour quelque chose. « Dis merci » est présenté à Espace Libre jusqu'au 10 février.
Je comptais tes pas dans le temps, ce qui sépare l'espace de tes choix. Je n'étais pas seule, et les fleurs, tu les comptes sur le bout de tes doigts, qui défient noirceur et supplice. Mais moi, je suis attirée par le vice. On s'assemble ensemble, mes petits m'attendent. Et quand le jour se lève, je reviens vers toi. Ce que je reconnais, ce n'est que vie en moi. D'abus, je vis d'erreurs, tes mots comme une loi, comme une prémonition. On ne changera pas, on ne changera pas. Nos cris font tomber et les murs d'une vie qu'on se plaît à pousser. Les limites des corps, ceux qui partagent nos ébats, nos pensées. On s'éprend de douleur, mais on est attiré par notre malheur. On détruit ensemble, mes petits m'attendre. Et quand le jour se lève, je reviens vers toi. Ce que je reconnais, ce n'est que vie en moi. D'abus, je vis d'erreur, tes mots comme une loi, comme une prémonition. On ne changera pas, on ne changera pas. Je en moi. D'abus, je vis d'erreur, tes mots comme une loi, comme une prémonition. On ne changera pas.
Madame de Pirate, de son petit nom Cœur, avec la pièce Prémonition, qui est son plus récent extrait.
Segment libre, Michelle Obama à Montréal, plaidoyer pour l'éducation et l'égalité. L'ex-première dame des États-Unis séduit et inspire le public venu l'entendre. On en parle dans les journaux de ce matin. Je vous lis l'article de Lisa-Marie Gervais dans Le Devoir. Aussi populaire que son mari, dont la présidence des États-Unis a pris fin il y a un an, Michelle Obama continue de briller autant que lui, sinon plus. Lundi soir à Montréal, l'ex-première dame n'avait rien perdu de sa force d'attraction, séduisant et inspirant un auditoire à qui elle a parlé essentiellement d'éducation lors d'une causerie organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. « Merci », a-t-elle répondu en français à l'accueil que le public galvanisé, voire électrisé, lui faisait. Ils étaient quelque 10 000 spectateurs réunis, dont plusieurs femmes, notamment la mairesse Valérie Plante et Sophie Grégoire Trudeau, en plus de milliers d'étudiants, au Palais des congrès pour une rencontre en huis clos, où aucune photo ni captation vidéo n'était permise. Et même si certains avaient payé plusieurs centaines de dollars pour écouter l'ex-première dame, jusqu'à 1200 dollars pour être assis à une table avant, à l'avant de la salle, la magie a opéré dès son apparition sur scène. Pour son court entretien dirigé par Séverine Labelle, présidente de Femmes Essar, Michelle Obama avait prétendument carte blanche. Elle s'est pourtant limitée au combat qu'elle menait alors qu'elle était première dame. Malgré quelques questions plus légères, voire encadrées, je vous en reparlerai tantôt, ses propos, pleins d'intelligence et d'humour, n'en sont pas moins demeurés convenus. L'éducation en a été le maître mot. Peut-être bien femmes aussi. Et filles. Les chiffres montrent que si les filles sont compétentes, elles ne sentent pas qu'elles le sont, a dit l'ex-première dame, insistant sur le fait qu'il faille les soutenir. Même qu'à certaines occasions, elle ne s'est pas gênée pour prendre les hommes à partie et leur rappeler que c'est à tous ceux qui sont en situation de pouvoir de faire changer les choses et de céder leur place aux femmes. Si vous êtes assis à une table et que vous ne voyez que des personnes du même genre, de la même race, vous devez vous poser des questions, a-t-elle dit, sous les applaudissements. Quant aux femmes, elles doivent cesser de se dénigrer intérieurement et rassembler leur énergie pour repousser les barrières, a insisté Michelle Obama, avec cette authenticité, cette aisance à s'exprimer et à séduire qu'on lui connaît. Ces trois conseils aux leaders et à ceux et celles qui aspirent à changer les choses, l'éducation, la passion et le compromis. Vie à la Maison-Blanche. Michelle Obama est également revenue sur ses années à la Maison-Blanche. Si elle a pu occuper la fonction de première dame, la plus difficile techniquement, qu'elle a assumée dans sa vie, a-t-elle dit, c'est grâce à son éducation. L'éducation est la fondation de tout ce que j'ai accompli dans ma vie. Elle a exhorté les jeunes à écouter leurs parents au moins sur ce point. Prenez l'école au sérieux, a-t-elle dit sous les rires. Elle a admis avoir elle-même manqué de confiance en elle lorsqu'elle a dû voler de ses propres ailes. J'avais des doutes et des peurs, mais je me suis rendu compte que c'était dans ma tête. Elle a aussi admis qu'on a tenté de la décourager d'entreprendre des études dans les plus grandes universités comme Princeton et Harvard, qu'elle a fréquenté parce qu'elle était noire. Mais elle a dit être rapidement passée par-dessus, car la confiance profonde qu'elle avait en elle s'était bâtie dès l'enfance, un message qu'elle a tenu à transmettre à toutes les personnes présentes. J'étais fière de mon histoire, je n'ai jamais cherché à la cacher. Je me suis aimée, je n'ai jamais été une autre que Michelle Obama, a-t-elle déclaré sous les applaudissements. Et maintenant, des plans pour l'avenir, Michelle Obama en a plusieurs. mais pas de politique, a-t-elle dit, a-t-elle lancé, rappelant que sa réelle passion est le changement social. Parmi ses autres projets, en plus de s'occuper de la fondation qu'elle a créée avec son mari, elle termine ses mémoires et prépare l'entrée de sa cadette Sacha au collège. « Une fois que mes deux filles seront à cette étape, sky is the limit », a-t-elle affirmé. La présidence n'est pas pour elle, mais si elle avait une amie qui voulait se présenter, elle lui dirait « fais-le », tout en la mettant en garde qu'on ne fait pas de la politique pour soi ou pour faire mousser sa carrière. « La politique ne change pas qui tu es, elle révèle qui tu es », avait-elle d'ailleurs lancé d'entrée de jeu. « La politique, c'est un service public, un sacrifice ». La visite dans la métropole de Michelle Obama survient après celle très rapprochée de son mari Barack Obama, venu lui aussi à l'invitation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, de Joe Biden et d'Hillary et de Bill Clinton à la fin de l'année 2017. De passage à Toronto récemment, Michelle Obama se rendra à Vancouver le 15 février prochain et en Alberta au mois de mars. 5 questions en rafale. La marche ou le vélo? Les deux, a-t-elle répondu avant d'opter pour une longue randonnée. Une chose dont elle ne peut se passer, les frites. Le cerveau de qui aimerait-elle avoir? Personne. Je sais bien ce qui se passe dans le mien, alors je ne prendrai pas le risque d'essayer celui de quelqu'un d'autre. Si vous pouviez voyager dans le temps, à quelle époque iriez-vous? Ici et maintenant. Je suis noire, alors. Je n'aimerais pas vraiment retourner en arrière, a-t-elle déclaré sous l'hilarité générale, avant d'ajouter espiègle, regardez qui sont ceux qui veulent retourner en arrière à l'heure actuelle. La dernière chanson qui lui a trotté dans la tête, celle du film La Mélodie du Bonheur, au moment où elle a survolé la frontière canadienne. Parce que si on avait à quitter notre pays pour aller ailleurs, on viendrait ici. Mario Girard, l'humour de Lisée. Pensez donc, l'occasion était belle pour Jean-François Lisée de marquer des points. Son parti piétine dans les sondages et dans les idées, et il avait la chance d'être invité à l'une des émissions radiophoniques préférées de la jeune génération. Il a débarqué là avec l'envie de montrer son côté cool. Il est reparti en laissant l'image d'un homme capable des pires blagues de mon oncle. Invité pour la 184e fois à l'émission radiophonique « La soirée est encore jeune », le chef du Parti québécois a voulu expliquer l'idée innovatrice qu'il a eue en nommant Véronique Yvon, vice-chef de son parti. Lisée a donc fait une comparaison entre le concept du PQ et celui de Québec solidaire, représenté par les deux co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé. C'est alors qu'il a dit « En plus, contrairement à Manon, elle, Véronique Yvon, n'a pas de moustache ». Le public, habitué à huer de manière complice les quatre gars de « La soirée est encore jeune », notamment lors des jeux de mots de Jean-Sébastien Girard, a cette fois spontanément et franchement manifesté son mécontentement face à la mauvaise blague de Lisée. Un malaise a alors plané. Que voulait dire Jean-François Lisée au juste? Que sa vice-chef est plus féminine que Manon Massé parce qu'elle se rase la moustache, les aisselles, les jambes comme toute femme devrait le faire? L'auteur de cette torpille balourde s'est empressé de rédiger sur Facebook un mot d'excuse dans lequel il rappelle habilement que Manon Massé elle-même fait des blagues sur sa moustache. La principale intéressée n'a pas voulu commenter l'affaire car elle est au chevet de sa mère malade. Gabriel Nadeau-Dubois a toutefois qualifié la blague de mauvaise. D'abord, il serait grand temps qu'on en revienne de la moustache de Manon Massé. Les commentaires à son sujet font petit peuple. Laissons cela à André Arthur. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais, il n'est plus là pour être le porte-étendard de l'ânerie. Deuxièmement, en homme intelligent qu'il est, Jean-François Lisée sait très bien que ce type de blague sur l'apparence physique de quelqu'un ne se fait pas, surtout quand on aspire à être premier ministre. Peut-être que Manon Massé assume sa moustache, mais en entendant ce commentaire maladroit, j'avais en tête tous ces jeunes ridiculisés dans les cours d'école à cause de leur apparence physique. Ces jeunes n'attendent qu'une chose des adultes, qu'ils les protègent, pas qu'ils leur rappellent leurs intimidateurs. Cet écart de la part du chef du PQ nous ramène à la fameuse performance qui vise les invités qui vont dans les émissions de divertissement. La soirée est encore jeune est diffusée en direct d'un bar devant un public enflammé et elle se fait en compagnie de quatre gars qui ont la dégaine facile. Il arrive fréquemment que l'on sente la pression qui repose sur les épaules des invités. Ils veulent être à la hauteur, ils gesticulent et se débattent comme des damnés pour en ressortir gagnants. Bref, ils en font parfois trop et ils perdent au change. Je me souviens des premières saisons de Tout le monde en parle où des invités vendaient carrément leur âme au diable. Il y a eu des moments malaisants où des gens, à force de vouloir être à la hauteur, avaient l'air complètement ridicules. Comme a déjà dit un jour Henri Salvador, l'humour, c'est comme le swing, ça ne se travaille pas. On l'a ou tu l'as ou tu ne l'as pas. Depuis que les politiciens ont pris l'habitude d'aller dans les émissions de divertissement, on a eu droit aux extrêmes. Cela peut rapporter beaucoup, mais cela peut être néfaste. Je suis le premier à apprécier le fait que les politiciens sortent de leur zone de confort pour montrer leur côté humain. Mais ils doivent savoir que ces entrevues sont une arme à deux tranchants. Et il semblerait que l'arrivée en renfort des réseaux sociaux conforte les conseillers et attachés de presse dans leur idée que ces apparitions publiques sont toujours une bonne chose. Ce procédé est devenu courant et trop facile à mon goût. Malheureusement pour Jean-François Lisée, les excuses qu'il a offertes à Manon Massé ne m'ont pas convaincue. Son commentaire m'est resté en travers de la gorge. À l'instar de plusieurs milliers de Québécois, Jean-François Lisée est en train de vivre le fameux « moi sans alcool ». Dimanche soir, à la soirée est encore jeune, il buvait une boisson non alcoolisée, fort heureusement. Imaginez ce qu'il aurait pu dire. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Je vous invite à rester avec nous puisque les paractualités s'en viennent si vous nous écoutez en direct. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical.